Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On est ravis de vous retrouver avec notre combinaison gagnante pour démarrer du bon pied. Un sourire, un grand verre d'eau fraîche, vu la température, et des bronzés. Il y a du
soleil. Jean-Claude Duss de Paris. Disons, je suis embêté, j'ai pas retrouvé ma valise.
Bonjour.
Bonjour.
Gigi, dis donc, je vous ai amené le soleil dans les bagages.
Ah, ça. Heureusement que vous avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera sale temps. Comme j'ai paumé mes bagages.
Ah ouais,
très drôle, Jean-Claude Duss et sa valise égarée dans le film, bien sûr, Les Bronzés. On souhaite un très bon anniversaire à Michel Blanc, qui fête aujourd'hui ses 70 ans.
Bon, on va éviter de bronzer aujourd'hui, tant le soleil tape fort en ce moment. L'alerte canicule est d'ailleurs toujours en cours dans 26 départements désormais, principalement dans le quart sud-ouest du pays.
Et face à cette vague de chaleur, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 500 millions d'euros pour la renaturation des villes. Un plan afin de constituer des canopées urbaines et végétaliser certaines façades.
Replanter des arbres, créer de nouveaux parcs, supprimer le béton pour développer ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur.
Mais est-ce que ce sera suffisant? Comment rendre l'espace urbain plus respirable en période de forte chaleur? Notre invité à 5h45 sera François Gémen, chercheur à Sciences Po et membre du GIEC. Dans l'actualité également, Julien.
Cette information Europe 1, Emmanuel Macron va se rendre à Kiev cet après-midi. Il s'agit de la première visite en Ukraine du chef de l'État depuis le début de l'invasion russe. On y revient évidemment dans nos journaux.
Et c'est dans ce contexte que se déroule en ce moment à Villepinte un salon un peu particulier.
Oui, le salon de l'armement Eurosatory, c'est le rendez-vous des amateurs de chars, d'artillerie et de fusils d'assaut. Et ils sont de plus en plus nombreux à mesure que l'armée russe progresse dans le Donbass et que les livraisons d'armes à l'Ukraine s'intensifient.
Des livraisons qui vident les stocks occidentaux.
Et qui n'étaient déjà pas très fournis, hein, on ne va pas se mentir. Voilà pourquoi il faut réagir si l'on veut soutenir l'Ukraine dans la durée et remettre à niveau nos armées. C'est en substance le message qu'a fait passer Emmanuel Macron en inaugurant ce salon lundi. Nous sommes entrer dans une économie de guerre, ce sont ces mots, et on va les décrypter à 6h10 avec notre invité.
Renaud Bellet, co-directeur de l'Observatoire de la Défense de la Fondation Jean Jaurès.
Votre partition pour conclure, Omblin.
Dans un seul film, on croise Aretha Franklin, Steven Spielberg, James Brown et Ray Charles. Avec les plus grandes figures de la soul et du blues autour de Dan Aykroyd et John Belushi, la partition à 6h20.
Ça va swinger ce matin. Soyez tous les bienvenus.
On va faire du match potato.
Ok. Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bon, ça va swinguer, surtout il va faire très chaud. 23 départements en vigilance orange canicule.
Oui, 23 départements qui se trouvent entre le sud-ouest et les Pays de la Loire. La Drôme et l'Ardèche sont également concernés par cette vigilance orange canicule. Alors cette vigilance, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut tout simplement dire que ces 23 départements ont atteint les seuils de canicule et les ont dépassés pendant plus de 3 jours. Mais ça veut surtout dire qu'il fera chaud également ailleurs. Il ne fait pas chaud que sur ces 23 départements-là. Aujourd'hui, on a un temps encore très très sec avec beaucoup de soleil. C'est un petit peu plus voilé le long de l'Atlantique. Cet après-midi, ça y est, les orages éclatent en montagne, hein, sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. On va entendre le tonnerre gronder. Et puis côté température, alors ce matin c'est encore agréable, on a une fraîcheur. Cette nuit a été relativement agréable, on avait un petit peu de fraîcheur. Et cet après-midi, on va dépasser les 40 degrés dans le sud-ouest entre les Landes et les Pyrénées.
Merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure pour une nouvelle météo. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Et à la une de ce jeudi 16 juin, cette information Europe 1, Emmanuel Macron attendu à Kiev aujourd'hui. Problème, l'espace aérien ukrainien est fermé. Il va devoir choisir entre le train et la voiture. Une galère que connaît bien notre envoyé spécial en Ukraine. Il nous raconte tout dans un instant. Le mercure s'affole, jusqu'à 40 degrés attendu. 23 départements en vigilance orange canicule. Comment ne pas suffoquer dans les grandes villes? Eh bien à Lyon, on teste la végétalisation des rues et ça marche. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis l'Espagne ne digère pas la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. La Ligue espagnole de football porte plainte pour non-respect du fair-play financier. Toutes les explications à suivre.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal, c'est avec Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Après la Roumanie et la Moldavie, direction Kiev pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est une information Europe 1. En tant que président français, bien sûr, mais aussi président de l'Union européenne, il va rencontrer son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Nicolas Tonnet, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. On le sait, hein, depuis le début de la guerre, l'espace aérien est fermé. Il reste deux solutions pour rejoindre la capitale, le train ou la voiture, et dans tous les cas, Nicolas, le trajet promet de ressembler à une expédition.
Oui, si l'on s'en tient à la logique géographique, Emmanuel Macron, pour la dernière phase aérienne de sa venue, devrait atterrir à Rzeszów. C'est l'aéroport international polonais le plus proche de la frontière ukrainienne, seulement 100 km de distance. Si le convoi présidentiel prend la route ensuite vers Kiev, il faut ajouter alors plus de 700 km jusqu'à la capitale ukrainienne, de la nationale, de la 4 voies, bondée de camions, de bouchons. Une route que j'ai faite sur 550 km hier à 11h, avec deux arrêts essence seulement, et ensuite un stop à Jytomyr, où je me trouve à 150 km de Kiev pour cause de couvre-feu. Alors bien sûr, ce sera plus simple pour Emmanuel Macron, avec une escorte et la police, mais la distance éreintante reste la même par la route. Par le train, c'est beaucoup plus tranquille, très confortable, mais encore plus long. Partant de Pologne, car il faut changer les roues des wagons à la frontière à cause de la différence d'écartement des voies entre le système ferroviaire européen et celui de l'époque soviétique en Ukraine. Au bas mot, donc 12 heures, sauf si le convoi s'arrête moins que les trains ordinaires. Mais en l'absence de moyens aériens, quoi qu'il arrive, sécuriser et organiser sur des centaines de kilomètres ce genre de déplacement au long cours est extrêmement compliqué.
Merci Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine.
Où un couloir humanitaire était prévu hier pour évacuer des civils retranchés dans l'usine Azot de Severodonetsk dans le Donbass. Moscou accuse Kiev d'avoir empêché le bon déroulement de l'opération en violant à plusieurs reprises le cessez-le-feu.
A noter également, Joe Biden, le président américain, débloque une nouvelle aide militaire d'un montant $1 milliard pour l'Ukraine. Ukraine, enveloppe qui comprend notamment des pièces d'artillerie, des obus ou encore des missiles anti-navires. Washington appelle également les Occidentaux à intensifier les livraisons d'armes à Kiev.
Retour en France, rien ne va plus entre la NUPES et la Macronie à 3 jours du second tour.
Jean-Luc Mélenchon, le leader de la NUPES, invite même la coalition présidentielle à baisser d'un ton, visant ceux qui sous-entendent que l'union de la gauche est l'ennemi de la République. Mais en cas de duel Rassemblement National-NUPES, pour qui faut-il voter? Après la cacophonie et le flou, Elisabeth Borne, la première ministre, a tenu à donner ses consignes hier soir aux 20h de France 2.
Notre position, elle est très claire, c'est aucune voix pour l'extrême droite. Ensuite, il y a des candidats qui défendent les valeurs de la République dans cette alliance de circonstances. Eh bien, ces candidats, on les soutient. Moi, j'ai, dès dimanche soir, dit que j'apportais mon soutien à Fabien Roussel, vous savez, le secrétaire national du Parti communiste. Vous voyez qu'on est pas d'accord sur beaucoup de sujets. Néanmoins, c'est un républicain et je lui ai apporté mon soutien. De même à André Chassaigne, le président du groupe communiste. Mais quand on a face au Front National, au Rassemblement National, des candidats qui insultent nos policiers, qui sont ambigus sur la laïcité et qui sont en connivence avec la Russie, non, nous n'appelons pas à voter pour eux.
Elisabeth Borne, première ministre, candidate dans le Calvados, face à Noé Gauchard, candidat NUPES.
5h passées de 4 minutes sur Europe 1. Et si vous avez déjà mis le nez dehors, vous avez sûrement remarqué qu'il fait chaud, déjà très chaud. Le mercure s'affole. 23 départements en vigilance orange canicule, alors que les élèves de première passent leur bac de français cet après-midi entre 14h et 18h.
La vague de chaleur continue de déferler sur la France. Alors comment ne pas suffoquer, notamment dans les grandes villes, au moment où le gouvernement lance un plan de renaturation des villes à hauteur de 500 millions d'euros. À Lyon, la municipalité a déjà planté sur les 3 km de la rue Garibaldi arbres et arbustes pour apporter un peu de fraîcheur. Le reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
La rue Garibaldi, quasiment une autoroute de 3 km qui traverse la ville de part en part. Mais depuis plusieurs années, l'axe a été complètement reconfiguré des deux côtés désormais. Deux larges allées plantées de centaines d'arbres, platanes, chênes, érables, tilleuls. De quoi déjà apporter beaucoup d'ombre, mais on y a ajouté un système d'irrigation novateur qui permet de créer une climatisation naturelle, explique Frédéric Ségur, responsable du paysage à la métropole de Lyon.
Ici, il y avait une ancienne trémie qui a été transformée en bassin qui permet de stocker de l'eau pluviale. L'idée, c'est d'utiliser cette eau en période de canicule pour redonner de l'eau aux racines des arbres. Tous les végétaux pompent l'eau du sol. L'eau qui est pompée dans le sol va être transformée en vapeur d'eau et relarguée dans l'atmosphère. Et cette vaporisation de l'eau, ça crée un abaissement de température. C'est comme si on branchait un climatiseur, il réalise de la fraîcheur.
Des capteurs de température ont été installés sur les arbres et le résultat est bluffant.
Au total, on peut gagner 3 à 4 degrés de température pendant la journée. On estime un platane mature comme ça, quand il est capable de faire de l'évapotranspiration, ça correspond au fonctionnement d'une vingtaine de climatiseurs qui fonctionnent en continu.
C'est pour cela que la végétalisation de la ville est en marche. À Lyon, on plante désormais 5000 arbres nouveaux chaque année. Jusque-là, c'était seulement 3000. Lyon, Jean-Luc Bougeot, Europe 1.
Et à Lyon justement, mais aussi à Bordeaux, en cette période de canicule, les horaires d'ouverture des parcs et jardins sont étendus.
À quelques semaines maintenant des grandes vacances, c'est la galère pour réserver un billet de train.
Les rames sont déjà presque toutes pleines pour le mois de juillet, alors que la SNCF se dit au maximum. Alors comment faire pour trouver un ticket, sachant que 10% des voyageurs de Ouigo ne prennent finalement pas leur train? Eh bien la SNCF va leur proposer à la fin du mois de revendre leur billet à hauteur de 80% de son prix à des clients qui se seront inscrits sur une liste d'attente.
Du foot, un mois après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, ça ne passe toujours pas en Espagne.
Nouveau rebondissement dans cette affaire, la Liga porte plainte auprès de l'UEFA contre le club parisien pour non-respect du fair-play financier. Ça veut dire quoi, Jean-François Pérez ?
Eh bien, c'est la suite logique du combat que mène depuis des années Javier Tebas, le président de la Liga, contre ce qu'on appelle les clubs États, le PSG, propriété du Qatar, et Manchester City, qui appartient aux Émirats Arabes Unis. Pour Tebas, ces deux clubs mettent en péril le foot mondial. Leurs fonds seraient illimités, ils contourneraient les règlements à leur guise, y compris le fair play financier mis en place par Michel Platini à l'UEFA en 2010 pour éviter les dépenses excessives de certains clubs fortunés. Le dirigeant espagnol estime que le PSG, lourdement déficitaire ces dernières années, n'aurait pas dû avoir le droit d'offrir à Mbappé un nouveau contrat record. Une démarche bien trop tardive et vouée à l'échec sans doute, selon Arnaud Péricard, avocat spécialisé dans le sport.
C'est à l'UEFA, qui elle-même a édicté ce règlement, qu'il appartient de vous dire si vous êtes ou pas dans les clous. L'UEFA n'a pas sanctionné le Paris Saint-Germain au titre d'un manquement éventuel à son règlement sur le fair-play financier.
Pendant ce temps, Kylian Mbappé goûte à quelques semaines de vacances avant la reprise de l'entraînement courant juillet, avec le PSG, quoi qu'il advienne.
Merci pour ces explications, Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1. Et puis on termine avec un petit mot de basket. Première manche de la finale du championnat de France Elite. Hier, Monaco s'est imposé 82-74 sur l'Asvel à Villeurbanne. Deuxième manche prévue demain, toujours à Villeurbanne, avant les 3e et 4e à Monaco.
Monaco qui est en quête de son premier titre de champion de France. Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
Il est 5h08 et ce sont les courses à présent, les courses de Thierry Léger et son pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses ce soir en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon pari gagnant sera le 601 Carini. Longtemps ménagé par son entourage, en évitant notamment toute compétition à l'âge de 2 ans, ce fils du crack étalon Siyuni a réussi à s'imposer dès sa deuxième tentative cette année le 8 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans un style qui laisse augurer que ce poulain estimé est à l'aube d'une très belle carrière. Alors notez bien, pour ce soir sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 1, Carini.
L'As, merci beaucoup Thierry Léger et à tout à l'heure pour vos pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Oui, sans oublier Martin Lange évidemment pour le pressing. Bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec vos journaux et ces insoumis qui veulent faire trembler l'Assemblée. C'est le titre à la une du Figaro qui fait le portrait de ces figures de la NUPES que l'on devrait retrouver sur les bancs de l'hémicycle d'ici quelques jours. De Raquel Garrido à Émeric Caron en passant par Sandrine Rousseau. On ne va pas s'ennuyer. Tout comme les élèves de terminale qui, après la philo, hier vont plancher aujourd'hui sur le français. Nouveau bac, le grand test, peut-on lire en une du Parisien aujourd'hui en France. Et puis pression sur les États les plus endettés, c'est le titre des Échos. Alors que la Banque Centrale Européenne est contrainte d'intervenir pour éviter une crise au sein de la zone euro, les coûts de financement des États les plus fragiles s'envolent. La Grèce et l'Italie en tête. Omblin, on commence avec vous. Quel article vous a tapé dans l'œil ?
C'est l'histoire d'un bateau, d'un naufrage et d'une chasse au trésor. Et vous pouvez la lire dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Le navire, c'est le Prince de Conti de la Compagnie des Indes orientales. À son retour de Chine au début du mois de décembre 1746, ses cales sont chargées de porcelaine, de thé, de soie et de lingots d'or pris dans le brouillard non loin des côtes de Belle-Île en mer. Il coule dans les eaux froides bretonnes, emportant avec lui 120 marins et tous ses trésors. Près de 230 ans plus tard, en 1974, l'épave est retrouvée à 10 mètres de profondeur. Le navire en bois, ou ce qu'il en reste, est pillé par de nombreux plongeurs qui emportent avec eux la porcelaine et les lingots. Évidemment, le thé évidemment, a disparu. 5 voleurs sont retrouvés et condamnés en 1983, sauf que les lingots ont disparu, envolés. envolé jusqu'à cette mystérieuse vente de 5 lingots sur un site aux enchères publiques. En 2017, visiblement des lingots d'or anciens, l'enquête permet d'exhumer une émission de télévision durant laquelle une Américaine raconte comment elle est tombée dessus lors d'une plongée. La femme est retrouvée par la police et admet la supercherie. Ces lingots ornés de sinogrammes viennent d'une Française qui vit en couple avec un Américain. Les enquêteurs donc poursuivent leur investigation. Je ne sais pas si vous suivez. Ils remontent le filon. Et il tombe donc sur cette vendeuse, sur cette Française, aujourd'hui âgée de 76 ans. Elle raconte que sa sœur est mariée à un ancien plongeur photographe professionnel, lui aussi est septuagénaire, et il y a plus de 40 ans, eh bien, il a participé à la plongée dans l'épave du Prince de Conti au large du Morbihan. Son nom est connu par les autorités puisqu'il avait été suspecté dans les années 80, mais jamais vraiment inquiété faute de preuves. Depuis, cet homme et sa femme mènent une existence tranquille sur un bateau, tiens, entre la France et les États-Unis. Confondu cette fois par, je cite, de nombreux indices matériels incriminants, le couple a fini par admettre avoir vendu également une dizaine de lingots en Suisse. Il en avait remonté un sacré paquet quand même de l'épave. Le plongeur, sa femme et sa belle-sœur, c'est presque un conte, ont été mis en examen, placés sous contrôle judiciaire. En attendant la suite de la procédure, les 5 lingots repérés sur le site aux enchères en 2017, donc, et saisis par les autorités américaines, eux, ont été rendus à la France. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France.
Merci beaucoup, Ombline, pour ce récit. Martin, c'est à vous.
Oui, Ombline, Julien, est-ce que vous saviez que depuis 2 jours, l'Union européenne et le Canada ont une frontière commune?
Ah bon?
L'Union européenne et le Canada.
Ouais.
C'est pas à tout près. Hein.
Ouais, ça paraît assez loin quand même. Il y a des milliers de kilomètres entre l'Europe et le Canada. Et surtout,
un océan,
l'Atlantique. Hein. Oui, mais vous oubliez un détail. Ah. Le Groenland, oui, qui appartient au Danemark, et à quelques kilomètres au nord-ouest, hein, dans le détroit de Nares, c'est le détroit qui donne accès à l'Arctique, il y a un caillou, l'île Hans, 1,3 km², que Danois et Canadiens se disputent depuis 49 ans. Et bien, depuis mardi, hein, ce conflit frontalier est terminé.
Oui.
Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, hein, canadiens et Danois, ont signé un accord pour séparer l'île en deux, créant donc de fait la première frontière terrestre entre l'UE et le Canada.
Alors ce conflit de près de 50 ans, Martin, est qualifié par la ministre canadienne, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais de la plus amicale des guerres.
Oui, parce qu'attention, il y a eu une guerre autour de l'île Hans, la guerre du whisky.
Ah.
Au départ, en 1973, hein, lorsque Danois et Canadiens se partagent le détroit de Nares, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la souveraineté de ce caillou. Personne n'y prête vraiment attention, à vrai dire. Mais 10 ans plus tard, en 1984, l'affaire devient beaucoup plus sérieuse. Des soldats canadiens prennent symboliquement possession de l'île en plantant leur drapeau et en laissant traîner quelques bouteilles de whisky. Provocation, s'insurgent les Danois qui enlèvent immédiatement le drapeau, les bouteilles, et qui les remplace par du schnapps et de l'aquavit. Depuis, c'est devenu une tradition, un whisky contre schnapps, tradition qui a pris fin mardi avec, évidemment, pardon, vous l'aurez deviné, un échange de bouteilles.
Et vous êtes quoi, team schnapps ou team whisky?
C'est ni l'un ni l'autre.
Bon, en tout cas, rien à 5h14 du matin,
c'est
évidemment.
Trop fort.
Team café. Il y a aussi un message très politique, Martin, derrière cet accord.
Oui, un message adressé à la Russie. Les deux dirigeants ont été très clairs. Hein, nous montrons que les disputes territoriales peuvent être résolues. Puisse cet accord inspirer d'autres pays. Référence au Donbass, évidemment, que se disputent Ukrainiens et Russes. Par ailleurs, cet accord autour de l'île Hans pourrait être plus stratégique qu'il n'y paraît, note le Courrier international, à l'heure où plusieurs grandes puissances, États-Unis, Russie, Canada, Norvège, entre autres, investissent l'Arctique, ses ressources et surtout ses routes maritimes qui, à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, pourraient raccourcir considérablement le voyage entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Dans l'Arctique, Canada et Danemark règlent la guerre du whisky. C'est à lire dans le Courrier international.
Je ne savais pas que le Canada était producteur de whisky. En tout cas, c'est pas le premier pays.
Je ne suis pas sûr qu'ils soient producteurs de whisky. Non, en tout cas, ils sont consommateurs.
Ouais. Ils en boivent. Non, mais que ce soit un emblème. Genre, on met des bouteilles de whisky sur eux. Voilà. J'aurais mis plutôt du sirop d'érable. Mais bon. Ouais. Qu'est-ce que c'est?
Je crois que par moins 25, le whisky, c'est mieux.
Absolument. Merci, Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro qui s'intéresse à une race de chiens omniprésente sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être remarqué, une race tendance avec tous les excès que cela implique. Je vous donne quelques exemples, vous allez voir. Vous vous souvenez des aventures de Boule et Bill? Ça vous dit quelque chose? Bande dessinée qui a fait l'objet de plusieurs adaptations télévisées et même au cinéma. Et bien, le succès auprès du grand public a été tel que dans les années 70-80, tout le monde voulait son cocker anglais, la race de Bill, assez caractéristique avec ses longues oreilles. Pour répondre à la demande, les éleveurs, on peut le dire, ont fait n'importe quoi. Ils ont reproduit entre eux des chiens qui auraient dû être mis de côté en temps normal, car ne répondant pas aux standards physiques et mentaux, typiquement un animal trop excité, trop agressif, agressif pour une vie de famille. Or, ces traits de caractère, et ça vaut également pour le physique, se transmettent vous savez peut-être, de portée en portée. Voilà comment nous autres humains avons créé les races en sélectionnant des chiens aux caractéristiques similaires pour les faire reproduire entre eux et donc conserver ces caractéristiques. Le risque à terme, c'est la consanguinité. C'est comme dans les familles royales, hein, faire reproduire entre eux des cousins sur plusieurs générations, c'est l'assurance d'avoir des malformations et des maladies génétiques. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec le cocker. Tout le monde en voulait un. Les éleveurs ont multiplié les portées et voilà comment on s'est retrouvé avec des chiens ressemblant vaguement à Bill, des chiens malades, agressifs et mordeurs. Cette histoire, elle s'est répétée avec plein d'autres races. Le Labrador, popularisé par Georges Pompidou et les présidents successifs de la République. Le berger allemand avec les séries Rintintin et Rex plus tard. Et aujourd'hui, donc, vous avez raison Martin, c'est le bulldog anglais. C'est lui la star d'Instagram et de TikTok dont je vous parlais au début. Vous savez, c'est le chien de Winston Churchill, ce gros pépère court sur pattes, à la peau plissée et le museau écrasé, un molosse élevé au 19e siècle pour faire des combats de chiens qui aujourd'hui se bat surtout pour sa survie. Car voyez-vous, le bulldog anglais version 2022 est une aberration tant ses attributs distinctifs sont exagérés. Commençons par la face. Un museau de plus en plus écrasé, donc combiné à une mâchoire de plus en plus large et avancée. C'est rigolo, hein, ça donne l'impression que le chien est renfrogné en permanence, ouais, sauf qu'il n'arrive plus du tout à respirer. Ses voies respiratoires sont devenues tellement minuscules que selon une étude, 45% des bulldogs anglais sont atteints de ce syndrome qui bien souvent nécessite une chirurgie.
Ça s'entend d'ailleurs, on les entend respirer.
Exactement, on en est aujourd'hui d'ailleurs à opérer des chiots de quelques semaines condamnés à étouffer sans un coup de bistouri. Mais que voulez-vous, ça fait marrer, hein. Internet, ces vidéos de bulldogs en souffrance, incapables de marcher plus de 10 mètres ou qui ronflent d'ailleurs plus fort qu'un humain. À tout cela, ajouter des problèmes de peau, des dermatites chroniques causées par les plis, des yeux larmoyants entourés de tissus inflammés, des kystes entre les doigts à cause du poids excessif de la musculature, et vous avez un bulldog anglais, la seule race de chien qui ne sait pas nager et dont les accouchements par voie basse sont devenus quasi impossibles. Le taux de césarienne est supérieur à 80%. Une triste réalité masquée par les progrès des techniques vétérinaires qui permettent quand même à ces animaux de survivre. Mais ne sommes-nous pas en train de mettre en place une fabrique de monstres, s'interroge un responsable de la centrale canine française. La Norvège, elle, en tout cas, a tranché. En janvier, un tribunal d'Oslo a interdit sur son sol l'élevage de bulldogs anglais et de cavaliers King Charles, une autre race soumise à ces dérives. Les dérives, justement, de la sélection qui menace la santé des bulldogs anglais, c'est-à-dire ce matin dans Le Figaro.
Merci beaucoup Julien. Merci et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, le journal permanent Alban Le Prince.
Et tout d'abord, cette information Europe 1, après avoir laissé planer le doute, Emmanuel Macron se rend à Kiev aujourd'hui à la rencontre de son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, après avoir visité la Roumanie et la Moldavie. De son côté, Joe Biden, le président américain, annonce le déblocage d'une nouvelle enveloppe d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant $1 milliard. Elle comprend notamment des obus, des pièces d'artillerie, mais aussi des missiles anti-navires. Et puis la vague de chaleur continue de déferler sur la France. 23 départements placés en vigilance orange canicule aujourd'hui entre la Loire-Atlantique et l'Ariège, ainsi qu'en Ardèche et dans la Drôme, alors que les élèves de première passent leur bac de français cet après-midi.
On en vient aux initiatives en France, la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes. Et ce matin, Julien, on parle colocation.
Bonjour Élodie Cétruc.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes la cofondatrice et la patronne de Coloc & You. Que propose exactement votre service ?
Coloc & You, c'est une plateforme dédiée et adaptée à la colocation. Et à la différence des différents sites existants, c'est qu'on va intervenir pas seulement sur de la mise en relation au moment de la recherche de logement ou de colocataire, mais tout au long de la durée du bail avec différents outils qui sont vraiment adaptés pour la colocation, donc le suivi technique, la gestion des charges, etc.
Quand vous dites que vous faites le suivi technique, donnez-nous des exemples.
Par exemple, nous, on va proposer au colocataire de déposer un dossier unique en ligne, donc il aura une seule fois constitué son dossier. On va l'accompagner sur les documents à fournir en fonction de sa situation. Et ensuite, il pourra envoyer autant de fois qu'il le souhaite son dossier jusqu'à ce qu'il trouve sa coloc idéale. Côté bailleur, on va proposer la génération du contrat de bail de la colocation pour le nouveau colocataire. On va proposer la génération de l'état des lieux également, donc évidemment qui est à paramétrer lors de la première utilisation et ensuite qui se fait vraiment en 2 minutes pour les bailleurs, donc il y a un réel gain de temps. Donc ça, on est plus sur la partie voilà entrée au sein de la colocation et ensuite pendant toute la durée de vie du contrat de bail, par exemple la gestion des sinistres, le colocataire va pouvoir déclarer son sinistre directement via la plateforme de façon très intuitive en précisant depuis quand il a pu constater le sinistre, ajouter des photos, dans quelle pièce ça a eu lieu, ce que ça concerne, etc. Ce qui va alerter le bailleur, les autres colocataires, évidemment tout ça au sein de la même interface pour qu'ils puissent tous échanger et résoudre le problème dans les meilleurs délais.
Et c'est gratuit tout ça ?
Alors c'est gratuit pour les colocataires, entièrement gratuit pour les colocataires, et pour les bailleurs c'est sous forme d'abonnement, donc avec un tarif à 3,98€ par chambre par mois.
Alors imaginons que je possède un appartement avec 3 chambres disponibles que je souhaite louer. Qu'est-ce que j'ai à faire ou pas d'ailleurs ? Parce que vous faites beaucoup de choses à ma place.
Oui, en fait, c'est vous qui allez interagir directement avec les colocataires. Nous, on vous propose uniquement l'outil. On ne se positionne pas du tout en tant qu'agence. Donc en fait, vous allez arriver sur Coloc & You. Vous allez pouvoir créer vos chambres directement sur la plateforme pour que vos annonces soient en ligne dans l'immédiat, évidemment, si elles sont toutes les 3 disponibles à ce moment-là. Si par exemple, il y en a une qui est déjà louée, vous pourrez directement ajouter le colocataire sur la chambre concernée de façon à ce que lui, justement, puisse interagir avec vous via la plateforme. Et ensuite, pour les 2 chambres disponibles, supposons, les colocataires vont pouvoir directement vous envoyer leur dossier via la plateforme de façon à ce qu'il soit directement complet et que vous n'ayez pas à faire plein d'allers-retours parce qu'il manque un document, etc. etc. Ensuite, si vous choisissez de valider un des dossiers, directement, vous pourrez générer le contrat de bail ainsi que l'état des lieux des nouveaux colocataires sur Coloc & You.
Donc, les colocataires ne peuvent pas se rencontrer au préalable pour voir si ça colle entre eux. Tout est décidé par le bailleur.
Alors ça, c'est libre en fonction des choix de chacun. Nous, le site n'empêche pas des visites en présentiel, en physique, etc. Ça, c'est juste pour la validation du dossier. Évidemment, il peut y avoir une visite qui se fait entre les 2 avant que le colocataire envoie son dossier pour cette colocation.
Comment vous êtes venu cette idée de créer ce service et depuis quand d'ailleurs est-il en ligne ?
Alors, le site a été lancé en début d'année 2021 et l'idée m'est venue parce qu'en fait, je travaille dans le milieu de la colocation depuis un peu plus de 8 ans maintenant. J'ai travaillé en agence pendant 5 ans et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements, qu'on était sur un marché qui était quand même assez porteur puisqu'il représente environ 10% du marché locatif et que pour autant, c'était un marché qui était vraiment pas structuré. Et donc, j'ai cherché une solution pour automatiser et optimiser les process de chaque étape de la vie en colocation de façon générale, autant pour les colocataires que pour les bailleurs, pour vraiment leur simplifier la vie, leur fluidifier la vie et maintenant, du coup, via Coloc & You, participer un peu à la structuration aussi de ce marché-là, de façon à ce qu'à terme, les colocataires puissent bénéficier du même professionnalisme que celui qui va encadrer la gestion de location traditionnelle.
Quel est le profil type des colocataires ? On pense instinctivement aux étudiants, mais j'imagine que le public est plus large.
Beaucoup plus large que ça. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a plus de jeunes actifs en colocation que d'étudiants, bien qu'il y en ait quasiment autant. Mais ça y est, la majorité a été dépassée par les jeunes actifs. Et alors, de par les différentes crises qu'on a pu avoir ces dernières années, la gentrification sur les grosses agglomérations, les prix qui sont de plus en plus élevés.
Les confinements ont joué aussi ?
Alors, les confinements ont joué plutôt la défaveur des bailleurs, puisque les colocataires ne souhaitaient pas arriver dans une nouvelle colocation avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas forcément d'avant. Mais de façon générale, par contre, oui, le marché évolue. Et effectivement, maintenant, on n'est plus seulement sur des profils étudiants ou jeunes actifs. On a des personnes dans le cadre de séparation qui ont besoin d'un temps de réadaptation pour se retourner et repartir un peu de l'avant sur un nouveau chapitre de leur vie. On a des retraités, on a des familles monoparentales. Vraiment, l'évolution des prix des loyers sur les grosses agglomérations joue énormément en faveur de la vie en colocation.
Merci beaucoup, Élodie Setruc, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir fait découvrir cette initiative, votre plateforme Coloc & You, qui simplifie la colocation pour tout le monde. On vous souhaite beaucoup de succès et à très bientôt.
Merci
sur Europe 1.
Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour, bon réveil. Merci de nous avoir choisi de bon matin. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamarre et la canicule qui continue de nous cuire.
Les températures dépasseront localement les 40 degrés en cette fin de semaine dans l'ouest, le nord. L'Île-de-France annonce Météo France. On en reparlera dans un instant avec Anissa Haddadi. Face à cet épisode caniculaire précoce, le gouvernement met 500 millions d'euros sur la table pour remettre de la nature dans les villes. Moins de goudron, plus d'arbres afin d'apporter de la fraîcheur dans les zones urbanisées. On en parle dans un quart d'heure. Avec François Gémen, chercheur à Sciences Po et membre du GIEC.
Et juste après, Olivier Pouls va nous parler d'un fromage de saison.
Oui, le fromage de chèvre dans tous ses états, dans toutes les régions, à 6h10.
Mais avant donc, la météo avec Anissa Haddadi, et force est de constater que la chaleur gagne encore du terrain.
Oui, oui, toujours très chaud dans le sud aujourd'hui avec des records qui risquent d'être battus aujourd'hui. Alors ça ne sera pas la journée la plus chaude. Hein. La plus chaude, c'est prévu pour vendredi et samedi. Samedi sur la moitié nord en particulier. Aujourd'hui, la barre très symbolique des 40 degrés sera atteinte dans le sud-ouest, notamment sur les Landes, entre les Landes et le Pays Basque, il va faire très chaud. Pour passer une bonne journée, moi ce que je vous conseille, c'est d'aérer maintenant, parce qu'on a une nuit relativement fraîche. Donc là, vous ouvrez tout, et puis juste avant le lever du jour, vous refermez tout et la maison devrait rester fraîche. On a 10 degrés à Caen, 12 à Brest, 15 à Brive et Metz, 17 à Paris, 19 à Montpellier, 21 à Nice. Sauf que la nuit, on a battu un record. Record historique battu dans la nuit de mardi à mercredi avec 37 degrés relevés à Cap Béar.
À quelle heure ?
Dans les Pyrénées-Orientales, en plein milieu de la nuit, à 2h du matin.
37 degrés.
37 degrés. Cet après-midi, chaleur étouffante, vous l'avez compris, dans le sud avec 40 degrés. 22 à Cherbourg, 24 pour Aurillac, 27 à Nice et à Lille, 31 à Paris, 33 à Marseille, 35 à Limoges, 37 à Tarbes, 38 à Bordeaux et 40 pour Carcassonne.
Merci Anissa Haddadi et à tout à l'heure. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce jeudi, cette information Europe 1, Emmanuel Macron sera à Kiev aujourd'hui. Premier déplacement du chef de l'État dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe. C'est cette visite à haut risque, en tout cas c'est une visite à haut risque pour le président français. Tous les paramètres ont été pris en compte, les services de sécurité sont plus que jamais sur les dents. La campagne pour les élections législatives entre dans sa dernière ligne droite et certains candidats dans le camp de la majorité présidentielle redoutent l'accident électoral, à savoir l'absence de majorité absolue. Et puis après l'épreuve de philo pour les terminales hier, l'épreuve du bac de français pour les élèves de première cet après-midi, l'occasion de faire ce triste constat, l'orthographe s'est considérablement dégradée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5h30, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. La rumeur couvait, nous pouvons le confirmer. Après la Roumanie et la Moldavie hier, Emmanuel Macron va donc se rendre aujourd'hui à Kiev. Déplacement symbolique à plus d'un titre. D'abord parce qu'il s'agit de la première visite du chef de l'État en Ukraine. Ensuite parce que la France assure pour 15 jours encore la présidence tournante du Conseil de l'Europe. Une visite à très haut risque. Et c'est ce que l'on va voir avec vous, William Molinier. Vous suivez ce déplacement présidentiel. Les paramètres, les conditions de ce voyage en terre ukrainienne sont étudiées de très très près.
Oui, parce que les Russes ont montré qu'ils pouvaient frapper dans la profondeur le territoire ukrainien jusque dans sa partie la plus occidentale. Deux chemins sont possibles pour rejoindre Kiev, soit par la route, soit par le train, l'espace aérien étant fermé depuis le début de la guerre. Début avril, Boris Johnson avait fait une visite surprise en venant en train depuis la Pologne. Mais ce mode de transport pour le service de protection du président pourrait être un véritable casse-tête, car il ne maîtriserait alors ni la durée du trajet, ni son itinéraire. A l'inverse, un convoi blindé par la route pourrait être privilégié depuis la frontière polonaise à bonne allure et sans s'arrêter. La délégation du président pourrait rejoindre Kiev en 5 ou 6 heures. Une fois dans les faubourgs de la capitale, le chef de l'État serait alors en sécurité, protégé par les batteries antimissiles ukrainiennes. En presque 4 mois de guerre, cette défense solaire s'est révélée efficace et suffisamment dissuasive. Aucun missile russe n'a atteint à ce jour le cœur de la capitale où s'est bunkérisé Volodymyr Zelensky.
William Molinier, Emmanuel Macron ne sera pas seul. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du Conseil italien Mario Draghi l'accompagneront dans la capitale ukrainienne.
On reste en Ukraine où la situation se dégrade dans le Donbass.
Les forces russes maintiennent la pression sur Severodonetsk, dernier bastion de résistance, l'usine chimique de la ville où soldats et civils ukrainiens se sont retranchés. Combat intense également pour la prise de Lysychansk, autre ville importante de la région.
Nous sommes à 3 jours du second tour des législatives et chaque camp fait ses calculs. Certains candidats de la majorité semblent inquiets.
Emmanuel Macron aura-t-il la majorité absolue ou sera-t-il contraint à une coalition à l'allemande, c'est-à-dire s'allier avec les Républicains en fonction des circonstances? C'est tout l'enjeu de ce second tour. Mobiliser les électeurs et faire revenir les abstentionnistes vers les urnes. Un seul mot d'ordre. Tout le monde sur le terrain, Jacques Serret, on ne peut pas dire que la sérénité règne dans le camp présidentiel.
Oui, sans vouloir jouer à se faire peur, les candidats marcheurs n'échappent pas au sondage et à leur lecture, plusieurs candidats concèdent, oui, une certaine inquiétude. Ensemble n'a pas l'assurance d'obtenir dimanche la majorité absolue. Moins de 289 sièges, une hypothèse jugée inimaginable il y a encore quelques semaines. Il faut dire que depuis l'entrée en vigueur du quinquennat il y a 20 ans, le parti ayant remporté la présidentielle a toujours obtenu une majorité absolue de députés. Ce serait un cauchemar, craint un parlementaire de l'actuelle majorité. Un hémicycle bloqué, des débats interminables, des réformes paralysées, dont la plus emblématique du programme du candidat Macron, la réforme des retraites. Un scénario tant redouté qu'il semble déjà presque anticipé. Le chef de l'État le sait, s'il n'a pas les coudées franches à l'Assemblée, il devra composer. Face au bloc de gauche, sa seule issue serait de se tourner vers la droite. Jamais trop prudent, Emmanuel Macron a déjà commencé à le faire. Lundi, au lendemain du premier tour, il recevait Gérard Larcher, le président Les Républicains du Sénat, en toute discrétion.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1, les candidats et les ministres sur le terrain. La première d'entre eux était sur France 2 hier soir. Elisabeth Borne a clarifié la consigne de vote dans les 58 circonscriptions où la NUPES et le Rassemblement National se retrouvent face à face. Aucune voix pour l'extrême droite, dit la chef du gouvernement. Quant à voter pour un candidat de l'Union de la gauche, c'est possible s'il défend les valeurs de la République.
L'actualité de ce jeudi, et qui va le rester d'ailleurs une bonne partie du week-end, c'est la canicule qui s'installe. À Nantes, on a peut-être trouvé le moyen d'en limiter les effets.
23 départements de l'Ouest et du Sud-Ouest sont en vigilance canicule. La chaleur qui s'installe sur le nord de la France, notamment à Paris, et c'est dans les métropoles d'ailleurs qu'elle est particulièrement insupportable. Des solutions existent pour en limiter les conséquences. Une entreprise nantaise a développé une peinture de toit qui, comme son nom l'indique, s'applique sur les toitures. Le résultat est spectaculaire. Reportage Charles Guyard.
En ce moment, ouais, le téléphone sonne pas mal.
Adeline Constant travaille chez Ernie Cool et son entreprise de peinture fonctionne à plein et pour cause, une fois le coup de pinceau passé.
Il ferait 5-6 degrés de moins qu'en temps normal dans les mêmes conditions climatiques.
De fait, cette peinture de toit utilise une technologie déjà largement éprouvée dans un tout autre domaine.
C'est une peinture à l'eau avec de l'acrylique, des pigments réflectifs et puis des aérogels de silice. À la base, c'était utilisé par la NASA pour mettre sur les lanceurs qui vont dans l'espace pour protéger des rayons solaires. Donc nous, on en a rajouté dans notre peinture.
Une peinture que Nantes Métropole a choisie pour son bâtiment renfermant ses archives, certaines datant du début du 19e siècle. Toute la mémoire d'une ville répartie sur l'équivalent de 28 km de rayon qu'il faut préserver des envolées du mercure.
L'objectif, c'est de conserver nos documents entre 16 et 23 degrés.
Véronique Guiton, directrice des archives.
Ce qu'aiment pas les documents, c'est les variations trop rapides. Parce que ça va faire travailler les fibres du papier. Le papier va devenir plus sec, plus cassant, donc forcément plus fragile.
Et cette peinture n'est pas réservée qu'aux bâtiments administratifs. Elle a déjà été appliquée en région parisienne sur des immeubles d'habitation.
Voilà, le pic de canicule fait que le besoin est présent.
Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et Nantes qui pourrait battre un record de chaleur. Et aujourd'hui à Lyon et Bordeaux, la mairie étend les horaires d'ouverture des parcs et jardins municipaux.
La chaleur, les candidats au baccalauréat ont dû faire avec hier pour passer l'épreuve de philosophie. C'est au tour des élèves de première de plancher aujourd'hui avec le bac de français.
Et plus de 500 000 candidats du bac général et technologique sont concernés. Début des épreuves à 14h. Il faudra effectivement gérer la chaleur et vérifier l'orthographe. Elle est devenue catastrophique et s'est aggravée avec le temps. Une véritable plaie pour les correcteurs. Certaines copies en deviendraient presque illisibles, mais on a peut-être trouvé le coupable, Louise Salé.
Sans doute au numérique. En 2015, les dictées comportaient presque deux fois plus de fautes que dans les années 1990. Pour la professeure d'université Aude Denisot, les élèves écrivent de moins en moins à la main, ce qui les amène à moins s'attarder sur le fonctionnement des règles d'orthographe. Un problème notamment amplifié par les photocopies distribuées dans les petites classes.
Je vais prendre un exemple avec une faute qui est très fréquemment commise par les étudiants, c'est celle du A à accent. Quand on distribue un exercice à trous sur A à accent, l'enfant, il a plus vite fait de la remplir au hasard, puis de corriger ce qui est faux, plutôt que de réfléchir vraiment à la bonne réponse.
Outre l'écriture manuscrite, c'est la relecture qui se perd. Les jeunes échangent aujourd'hui à toute vitesse et pour les conversations plus formelles, c'est le correcteur qui fait le travail. Étienne Gomez enseigne le français dans un lycée de Seine-Saint-Denis.
Les élèves partent du principe que c'est rattrapable par la machine. Donc parfois, je leur donne des recherches à faire sur ordinateur et à chaque fois, je les vois guetter la ligne rouge qui signale une faute et à partir de là et clic droit pour voir les suggestions de la machine.
Et si au bac de français, l'évaluation du fond est prioritaire sur la forme, les fautes peuvent occasionner des points en moins.
Explication Louise Salé.
Dans le reste de l'actualité, les réquisitions au procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge.
Le procureur réclame la peine maximale à l'encontre de la SNCF, 450 000 euros d'amende pour une entreprise dans le déni, coupable selon lui d'avoir créé le contexte à l'origine de l'accident qui a fait 7 morts et des centaines de blessés. Relax demandé en revanche pour les deux autres prévenus. La SNCF Réseau et le cheminot chargé de la surveillance des voies. Aux États-Unis, la Banque centrale relève ses taux directeurs pour la troisième fois d'affilée, tour de vis historique jamais vu depuis 1994. La Fed se dit déterminée à lutter contre l'inflation qui dépasse les 8,5% outre-Atlantique. Le sport et le basket, Monaco remporte la première manche de la finale du championnat de France de Pro A, victoire 82-74 sur le parquet de l'Asvel hier soir. Deuxième manche demain, le champion est désigné au meilleur des 5 matchs, faut-il le rappeler.
C'est noté, merci beaucoup Christophe Lamarre pour ce journal. On passe aux courses avec les pronostics du Quintet à présent. Thierry Léger, bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est en nocturne à 20h15 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp que va se courir ce quintet, un handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 4 à 9 ans qui en découdront sur la distance de 1400 mètres et sur ce parcours si particulier dit du toboggan de Longchamp, il faudra privilégier les spécialistes de ce tracé. Ainsi, les numéros 12 Avoc et 6 Chalali, respectivement 4e et 5e, d'un quintet similaire le 1er mai sur le parcours qui nous intéresse, me semblent être ici deux points d'appui solides. On leur opposera les numéros 13 Brouillard, qui lui aussi a toujours bien réussi sur ce parcours, avec l'aide de son jockey Marie Vélon, qui s'en sert à merveille. 14 et s'est transformé en constant progrès et une nouvelle fois compétitif, au moins pour les places. Et 11, Torpen, auteur en dernier lieu d'une sage course de rentrée après 5 mois d'absence, en vue de cet objectif. Enfin, les numéros 8, Lanaken, 1, Power Jack et 3, French Comté, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 12, 6, 13, 14, 11, 8, As et 3.
Et 3, les pronostics sont à retrouver sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
C'est votre rendez-vous avec le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'est aujourd'hui qu'a lieu une audience spéciale dans un tribunal des Pays-Bas pour juger deux hommes impliqués dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. C'était en 2005. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Rafik Hariri, Laure, meurt dans un attentat le 14 février 2005.
Oui, ce jour-là, un kamikaze fait sauter une camionnette remplie d'explosifs au passage du convoi blindé de l'ex-premier ministre. Ça se passe à Beyrouth, au Liban. L'attentat fait 22 morts et plus de 200 blessés. Rafik Hariri meurt sur le coup.
Maintenant, comment on peut vivre au Liban sans lui? Parce qu'il était l'avenir pour nous. Il était toujours derrière les pauvres. Parce que lui, il était pauvre. Il venait d'une famille très pauvre. Alors, on ne sait pas comment on va faire sans lui.
Rafik Hariri avait démissionné quelques mois plus tôt de son poste de Premier ministre pour protester contre l'omniprésence syrienne au Liban. Il était le chef de file de la communauté sunnite qui avait des liens étroits avec les États-Unis, les pays occidentaux, et il était considéré comme une menace pour l'influence de l'Iran et de la Syrie au Liban. Témoignage quelques heures après l'attentat d'Amin Djemayel, l'ancien président de la République libanaise.
Ce genre d'attentat nécessite une très grosse infrastructure sur le terrain. On sait très bien quel est le rôle des services de renseignement syriens en territoire libanais. Ils sont infiltrés partout. Les moyens sont tels qu'il n'y a que des États qui peuvent réaliser un tel crime.
Un deuil officiel de 3 jours est décrété après l'attentat. Les écoles, magasins, institutions publiques sont fermées et certains commerçants affichent alors le portrait de Rafik Hariri en vitrine.
Avec cet assassinat, alors le Liban plonge dans sa plus grande crise depuis la guerre civile qui avait duré 15 ans, de 1975 à 1990.
Oui, et d'abord, chez beaucoup de Libanais, il y a cette crainte d'une chute radicale de l'économie.
Dans 3 jours, vous allez voir comment l'économie va commencer à chuter. Parce que l'espoir, c'était Hariri, l'économie, c'était Hariri. Le Liban, c'était arrivé.
Des manifestations anti-syriennes ont lieu quelques jours plus tard sur la place des Martyrs à Beyrouth en ce mois de février 2005. Les partisans d'Hariri appellent à un soulèvement pour l'indépendance du Liban. L'un des fils de Rafik Hariri s'exprime sur Europe 1.
C'est une euphorie totale. Tout le monde demande de retrait syrien du Liban. C'est noir de monde.
de toutes les troupes émancipées, de toutes les tendances libanaises.
Les troupes syriennes se retireront du Liban. L'ONU va créer un tribunal international pour juger les assassins de Rafik Hariri. 15 ans plus tard, faute de preuves, plusieurs accusés seront acquittés. Un homme proche du Hezbollah, mouvement armé soutenu par l'Iran, sera condamné par contumace à perpétuité pour avoir dirigé l'équipe qui a perpétré l'attentat.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant, sur Europe 1, le nouveau plan du gouvernement pour la renaturation des villes.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h44 sur Europe 1. La France a chaud depuis plusieurs jours, très chaud. Et c'est cette journée de jeudi qui marque véritablement le début de la canicule. 23 départements sont d'ailleurs toujours en vigilance orange. Alors face à cette hausse importante des températures, le gouvernement a annoncé, Omblin, la création d'un fonds de 500 millions d'euros pour, je cite, « la renaturation des villes ».
Bonjour François Gémen.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes chercheur à Sciences Po et membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU. 500 millions d'euros pour remettre du vert, des arbres, des parcs dans nos villes, ces pièges à fournaise lorsque le mercure voit rouge. Quelle a été votre réaction après cette annonce de l'exécutif ?
Oh, j'ai considéré que c'était un geste très bienvenu, mais malheureusement un peu tardif. Je trouve dommage de devoir toujours attendre qu'on soit véritablement le dos au mur pour réagir, alors que vraiment la clé de notre adaptation face aux impacts du changement climatique, c'est l'anticipation. Et donc il y a un vrai besoin d'anticiper, et donc mieux vaut tard que jamais bien entendu, mais très clairement les maires n'auront pas le temps de végétaliser leur ville d'ici 24 heures, voire même d'ici la fin de l'été.
Est-ce suffisant selon vous, cette enveloppe ?
Ah, ça, je ne sais pas si l'enveloppe elle-même est suffisante pour revégétaliser les villes, et j'imagine que ça va dépendre un peu des demandes qui seront faites par les différentes municipalités. Mais ce qui est certain, c'est que végétaliser les villes, en soi, n'est pas suffisant. C'est un des éléments importants de l'adaptation, mais il y a d'autres choses qui doivent être faites, notamment en termes d'architecture, notamment pour mettre plus de blanc dans les villes, par exemple en peignant en blanc les toits des immeubles, de manière à accentuer le phénomène d'albédo, qui est un phénomène naturel qui fait renvoyer les rayons du soleil par les couleurs claires, tandis que les couleurs sombres les absorbent. Et puis, il faudra surtout mettre en œuvre un vaste plan de rénovation thermique des logements pour éviter que certains logements ne soient des passoires énergétiques en hiver et des fours en été.
Également supprimer le béton, reperméabiliser les sols, parce qu'il faut le préciser, François Gémen, quand on parle de remettre des arbres dans les villes, il faut bien comprendre que les arbres, ce n'est pas seulement l'ombre, ils font baisser la température de l'air.
Absolument, et ce n'est pas juste pour faire joli, on observe vraiment des différences de température très significatives entre les rues qui sont bordées d'arbres et les rues qui ne le sont pas, par exemple. Des différences de température qui peuvent aller jusqu'à 4 degrés parfois. Donc c'est vraiment très significatif. Il faut se rendre compte aussi que pendant les vagues de chaleur, il peut y avoir un différentiel jusqu'à 10 degrés entre les villes et les campagnes. Et donc c'est vraiment quelque chose de très très important.
Qu'en est-il des façades et des toitures végétalisées ? Est-ce que cela apporte vraiment des îlots de fraîcheur également ?
Ça apporte des îlots de fraîcheur, c'est aussi très utile. Maintenant, comme je le disais, il ne faut pas croire qu'on s'en sortira uniquement grâce à des îlots de fraîcheur, mais ça fait partie des éléments de la réponse face aux vagues de chaleur.
Mais ce qu'on comprend, François Gémen, c'est qu'il faut finalement déconstruire les villes, repenser l'urbanisme dans sa globalité. Alors, ériger des tours de verre, encore aujourd'hui, c'est une hérésie.
C'est une sorte d'hérésie. Alors évidemment, c'est très joli, ça donne un aspect très moderne, mais face aux vagues de chaleur, effectivement, c'est une hérésie. Il faut bien constater qu'au cours des dernières années, on a surtout construit à partir de béton et de verre, c'est-à-dire deux matériaux qui sont loin d'être idéaux face aux vagues de chaleur.
C'est la combinaison des solutions, ce que vous dites, qui permettra aux citadins de respirer. Quels sont les obstacles à ces changements ? Puisque là, vous le dites, on se réveille peut-être un petit peu tard. Alors pourquoi on ne l'a pas fait avant ?
On se réveille un petit peu tard et je crois qu'on ne l'a pas fait avant parce qu'on plaçait toujours une distance importante entre nous-mêmes et les impacts du changement climatique. On s'imaginait que les impacts du changement climatique, c'était pour les autres, c'était pour les générations futures, c'était pour les pays du Sud et que pour nous, la seule manière de lutter contre le changement climatique, c'était de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors ça reste évidemment la priorité première, mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de choisir entre limiter les émissions ou s'adapter aux impacts, il faut faire les deux. Et je dirais, ce n'est que maintenant que nous prenons conscience de notre vulnérabilité face aux impacts du changement climatique.
Est-ce que les professionnels du bâtiment sont prêts, selon vous, à s'adapter, à changer finalement de paradigme, puisqu'on évoquait ces tours de verre ?
Je pense que ces changements sont en train de se produire à vitesse grand V dans plusieurs secteurs, dans le secteur du BTP, dans le secteur de l'architecture, et que tout le monde se rend compte aujourd'hui que ces événements qu'on considérait jadis comme des événements exceptionnels et qui donc n'avaient pas forcément vocation à se reproduire et ne nécessitaient pas de réponse structurelle, eh bien ces événements sont en train de devenir la norme et donc ça va impliquer de changer beaucoup de choses.
Oui, comme ces éléments deviennent la norme, comme ces vagues de chaleur qu'ils le deviennent également, ce ne sont plus des événements d'exception finalement.
Ce ne sont plus des événements d'exception et malheureusement ce n'est sans doute pas la dernière de l'été.
La réponse n'est pas uniquement politique, la réponse qu'on doit apporter, François Gémen. Si on prend l'exemple des ruelles vertes à Montréal, au Québec, la municipalité a entrepris de désasphalter, il y a beaucoup de termes dans ce genre en ce moment, désasphalter certaines zones et elle accompagne les habitants dans le verdissement de leurs rues de résidence. À notre niveau de citoyen, on peut agir également, c'est pas compliqué.
Absolument, on peut agir sur sa propre maison, on peut agir dans ses comportements individuels. En réalité, beaucoup de solutions d'adaptation au changement climatique sont des solutions très locales et même parfois des solutions individuelles qui ne dépendent pas forcément de ce que font les autres.
Est-ce que c'est des questions financières aussi ?
Bien sûr, c'est aussi une question qui touche à la question des inégalités. Si les plus pauvres sont les plus directement affectés par les impacts du changement climatique, c'est aussi parce qu'ils habitent dans des logements qui sont mal isolés, dont ils sont souvent locataires et qu'ils n'ont pas les moyens de rénover. Et c'est là où il faut vraiment penser les solutions climatiques et les solutions d'adaptation au changement climatique aussi en termes d'égalité où le soutien des pouvoirs publics est absolument crucial parce que sinon les plus riches pourront rénover leur logement et les plus pauvres ne le pourront pas et souffriront de plein fouet des impacts du changement climatique.
Merci beaucoup François Gémen d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chercheur à Sciences Po et membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU. Merci, bonne journée.
Merci à vous aussi.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1, soyez tous les bienvenus. Le journal permanent, Alban Le Prince.
23 départements placés en vigilance orange canicule aujourd'hui et pour cause, la journée s'annonce suffocante avec des températures qui pourront dépasser les 40 degrés alors que les élèves de première passent leur bac de français de 14 à 18 heures. Deux sujets au choix, le commentaire de texte ou la dissertation. Et malgré cette chaleur, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, indique que les épreuves du bac se dérouleront selon les modalités et les horaires prévus. Il appelle toujours les recteurs et les centres d'examen à la vigilance. Et puis c'est officiel, Europe 1 vous le confirme, Emmanuel Macron se rendra bien à Kiev cet après-midi avec Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Mario Draghi, le chef du gouvernement italien. Ils rencontreront Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
Allez, comme chaque jeudi, on passe à table à présent avec Olivier Pouls.
Bonjour Olivier.
Bonjour Ambine, bonjour Julien.
Bonjour Olivier, vous nous parlez aujourd'hui d'une famille de fromages de saison, les chèvres.
Et oui, qu'on se le dise, il y a bel et bien une saison pour les fromages, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Oui. Alors les fromages de chèvre en sont d'ailleurs une parfaite illustration. Au mois de février et de mars, les chèvres mettent bas, ce qui va déclencher le processus de lactation. Leur lait va alors pouvoir servir à fabriquer les fromages. Alors il faut savoir que la vache, elle peut mettre bas en toute saison, ce qui n'est pas le cas de la chèvre. Et puis lorsque les animaux broutent de l'herbe bien grasse, mangent des petites fleurs au printemps et en été, leur lait est évidemment meilleur et ça va se retrouver dans la saveur des fromages. Alors on ne le sait pas forcément, mais le fromage de chèvre que l'on mange en dehors de cette saison est souvent fait en fait avec du caillé qui a été congelé. Il faut savoir aussi que la France est le premier pays producteur mondial de fromage de chèvre.
Alors la France est le pays du fromage, j'imagine qu'en matière de fromage de chèvre le choix est vaste.
Il y en a des centaines, 14 font l'objet d'une appellation d'origine protégée. Alors les plus connus sont le crottin de Chavignol, le rocamadour, le pélardon, le brucio de Corse ou encore le Sainte-Maur de Touraine, mais aussi le roquefort. Et puis des fromages qui, à l'exception de ce dernier, se déclinent le plus souvent en différents stades d'affinage. Un frais qui représente 15% du marché, moelleux, demi-sec, voire sec. Alors, en fonction du temps que le fromager les a stockés, eh bien, ils vont sécher, ils vont durcir, perdre de l'eau, concentrer leur saveur.
Alors ce qu'il faut savoir, Olivier, c'est que les fromages de chèvre sont très bons pour notre santé.
Oui, allez-y, ne vous gênez pas. Ils sont plus digestes que les fromages de vache. Ils contiennent plus d'acides gras et moins de lactose. Donc notre estomac les assimile mieux. Leur croûte contient par ailleurs de la vitamine B9. Alors comme pour la vache, il faut évidemment préférer le lait cru. En termes de goût, évidemment, ce n'est pas discutable. On trouve trois grandes catégories de fromages de chèvre. Le fermier, c'est le plus authentique, avec le lait de la ferme, du lait cru et uniquement des ferments, et le savoir-faire évidemment de celui qui l'élabore. L'artisanal, même principe, mais avec des laits collectés auprès de différents éleveurs. Et enfin, le fromage laitier, C'est le plus industriel, souvent avec des laits pasteurisés ou thermisés et issus de grosses structures. On va dire qu'en termes de goût, c'est généralement le moins intéressant.
Quelques fromages de chèvre à nous recommander ce matin, Olivier ?
Bon, allez, le Pélardon, par exemple, un fromage du sud de la France, affiné au minimum 11 jours. Il est très crémeux, suave en bouche, avec un petit goût noisté qui est très agréable. Alors, je propose aussi le Banon, du nom d'un village des Alpes d'Haute-Provence. C'est un fromage crémeux, lui aussi, qui est affiné, vous savez, dans une feuille de châtaignier. Ah oui, et ces dernières vont lui transmettre des tanins de la structure. Alors, il reste toutefois assez doux en goût. C'est vraiment un fromage délicieux et, comme je le répète, de saison.
Merci Olivier.
Bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, très exactement. Dans un instant, la météo, le journal et un rendez-vous devenu incontournable.
Oui, malheureusement, serait-on tenté de dire. Je veux parler ici du salon de l'armement Eurosatory qui se tient en ce moment à Villepinte, salon qui prend un tout autre relief dans ce contexte de guerre en Ukraine. Emmanuel Macron ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Il s'y est rendu dès lundi, alors qu'habituellement, c'est plutôt le rôle du ministre de la Défense. Nous sommes entrés dans une économie de guerre. Voilà ce qu'a déclaré le chef de l'État sans qu'on comprenne exactement ce qu'il voulait dire par là. Est-ce une manière de relancer la course aux armements, de reconnaître aussi notre impréparation face à un éventuel conflit de haute intensité? On en parle dans une dizaine de minutes avec notre invité Renaud Bellet, le co-directeur de l'Observatoire de la Défense de la Fondation Jean Jaurès. Et puis ensuite, on lit votre partition.
Des costards avec cravate, des lunettes et des chapeaux noirs. La partition des Blues Brothers dans 20 minutes, le film qui fête ses 42 ans.
Mais avant la météo, Anissa Haddadi, on constate des températures extrêmement élevées aujourd'hui. C'est quasi inédit.
Oui, c'est inédit pour la période. C'est inédit, effectivement, pour une mi-juin. On a l'habitude d'avoir des coups de chaud en juin. En général, ça concerne la fin du mois. Et là, nous ne sommes que le 16 juin. Et aujourd'hui, c'est symbolique, la barre des 40 degrés va être franchie. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Les températures pourraient commencer à baisser en début de semaine prochaine, hein, début des orages ce week-end. Et les températures vont amorcer une légère baisse début de semaine prochaine. Alors aujourd'hui, on attend 40 degrés à Carcassonne, 39 à Nîmes, 38 à Bordeaux et à Niort, 36 à Biarritz et à Tulle, 35 à La Roche-sur-Yon, 34 à Lyon, 33 pour Marseille et Saint-Étienne, 32 à Clermont-Ferrand, 31 à Paris, il fait quasiment plus de 30 degrés partout, 28 à Amiens, 27 à Nice et à Lille et 22 pour Cherbourg. Prudence, le risque de feu en forêt est très élevé avec ces températures et cette sécheresse. D'ailleurs, 23 départements sont placés en vigilance orange canicule, des départements qui se situent entre le sud-ouest et les Pays de la Loire, plus l'Ardèche et la Drôme. Dans tous ces départements, les seuils caniculaires seront dépassés pendant 3 jours. Partout ailleurs, il va faire chaud. Le soleil brille partout avec un léger voile nuageux le long de l'océan Atlantique.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, soyez tous les bienvenus. Nous sommes le jeudi 16 juin. Il est 6h. Et à la une de ce jeudi, Anissa nous en parlait à l'instant, un four, voilà ce qui nous attend aujourd'hui. Cette chaleur vous énerve, vous vous sentez irritable, c'est normal, on vous explique pourquoi dans un instant. Emmanuel Macron à Kiev ce jeudi, une visite pour affirmer le soutien de l'Europe à l'Ukraine. La Russie, elle, resserre ses liens avec la Chine, notre correspondant à Pékin dans cette édition. Et puis le répertoire de Michel Sardou à l'honneur dans une nouvelle comédie musicale, un spectacle qui remet au goût du jour les tubes du chanteur.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal, c'est avec Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi, car devinez quoi, côté chaleur, le pire est à venir. Les températures progressent encore aujourd'hui avant un pic, 40 degrés au moins jusqu'à la fin de la semaine.
Bref, l'enfer, et forcément, ça affecte notre comportement avec une bonne raison d'être de mauvaise humeur.
Oui, vous vous sentez peut-être agressif, tendu, voire à fleur de peau. Rassurez-vous, ce n'est pas vous, l'explication est juste physiologique. Céline Giraud, avec la chaleur, notre cœur bat plus vite, la pression artérielle grimpe, tout comme le niveau de ce qu'on appelle l'hormone du stress.
Oui, et cette hormone, c'est le cortisol. Son rôle, nous permettre de réagir face à un danger ou une agression en allant puiser dans nos réserves énergétiques et musculaires. Alors quand le thermomètre frôle les 40 degrés, la sécrétion de cortisol est ininterrompue, provoquant l'épuisement progressif de l'organisme et du cerveau. Conséquence, insomnie, anxiété, fringale et pour les plus vulnérables, une agressivité qui peut parfois dégénérer. Joseph Agostini, psychologue et clinicien.
À partir du moment où les températures augmentent, on peut dire que l'agressivité peut être un exutoire, hein, et à ce moment-là, se manifester beaucoup plus fréquemment. La température n'est que le révélateur de fragilités déjà existantes, qui peuvent être à l'état latent, et qui se révèle quand on est mal dans son corps, mal dans sa tête, et la température peut alors déclencher hein, vraiment des états d'angoisse, de panique, voire de violence.
Et pour lutter contre cette agressivité inhabituelle, il faut donc rééquilibrer son taux de cortisol, les conseils des spécialistes, dormir au moins 8 heures, écouter de la musique douce et croquer chaque jour un morceau de chocolat noir.
Voilà, ça c'est très facile à faire. Merci beaucoup Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Eux devront aussi rester zen malgré la chaleur. Les élèves de première passent leur bac de français cet après-midi et on souhaite bon courage aux 5400 candidats.
Je ne suis pas sûr qu'ils aient le droit à un carré de chocolat dans la salle d'examen. Mais bon,
peut-être pas.
Pourquoi
non.
pas 6h02 sur Europe 1. 30 ans qu'un président français ne s'était pas déplacé dans un pays en guerre. Après Mitterrand à Sarajevo, Emmanuel Macron est attendu cet après-midi en Ukraine.
Europe 1 vous le révélait hier. Pour cette première visite depuis le début du conflit, le chef de l'État sera accompagné du chancelier allemand et du chef du gouvernement italien.
Des alliés européens qui doivent intensifier leur livraison d'armes à Kiev. Une demande de Washington qui a acté hier une nouvelle aide militaire à l'Ukraine.
Oui, et les États-Unis aussi inquiets face à l'entente entre la Chine et la Russie. Pour la Maison Blanche, Pékin, je cite, ne doit pas se placer du mauvais côté de l'histoire. Un avertissement après un nouvel appel entre les présidents chinois et russes. À Pékin, la correspondance de Sébastien Lebelzik pour Europe 1.
Les deux hommes ne s'étaient pas parlé depuis la fin du mois de février, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Mais après 3 mois et demi de guerre et de condamnations internationales, la position chinoise n'a pas changé d'un iota. La conversation entre les deux présidents a été rapportée abondamment par les médias officiels, comme le journal de CCTV hier soir. Xi Jinping dit soutenir la Russie en matière de souveraineté et de sécurité. Pour Zhang Xin, professeur en sciences politiques à l'université de Shanghai, l'attitude de Moscou est tout à fait compréhensible. Et comme le pouvoir chinois, il rejette la responsabilité sur l'Alliance Atlantique et l'attitude des démocraties occidentales.
Cette opération militaire en Ukraine visait principalement à tenter de reprendre légitimement certains territoires qui ont été historiquement volés ou occupés par d'autres pays. Il est maintenant temps de les reprendre.
En retour, la Chine espère toujours que son vieil ami russe, comme il est qualifié dans les médias, lui apportera lui aussi son soutien en cas de guerre contre Taïwan, alors que les menaces d'invasion se font de plus en plus pressantes. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
6h03, EDF est-elle en danger de mort? Les syndicats alertent sur la santé financière du groupe.
Oui, la dette d'EDF pourrait atteindre, tenez-vous bien, 65 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, alors que ses revenus, en revanche, eux, se sont effondrés.
La faute aux mesures d'urgence du gouvernement pour limiter la hausse de nos factures d'énergie. Des finances plombées aussi par l'interminable chantier de l'EPR de Flamanville dans la Manche. Après 11 ans de retard, le coût des travaux a été multiplié par 3,5.
Plus de 12 milliards d'euros pour cette centrale qui devrait être enfin opérationnelle d'ici le milieu de l'année prochaine. Visite du chantier avec Maud Descamps.
Attention, tranche 3.
Dans les couloirs du bâtiment qui abrite le réacteur, 3000 salariés et prestataires s'affairent dans les effluves de peinture fraîche. Sous l'immense dôme de béton de 60 mètres de haut, l'heure est aux finitions. Le chantier est quasiment terminé, précise le directeur de projet. Alain Morvan.
Nous avons passé 95% donc de niveau de finition. Nous devons finir pour pouvoir démarrer le réacteur de Flamanville 3 au deuxième trimestre 2023.
Mais il reste encore deux défis de taille. D'abord, les soudures pointées du doigt par l'autorité de sûreté nucléaire. 59% ont été réparées. Objectif, les terminer toutes d'ici la fin de l'année. Frédéric est roumain, il fait partie de l'équipe des soudeurs qui guident les super robots qui font les réparations.
Là, nous sommes en train de souder l'extérieur des circuits de vapeur. On fait ça par ordinateur essentiellement, pour guider les robots.
Une fois les soudures réparées, il faudra décrocher le sésame, l'autorisation de charger le combustible, c'est-à-dire les pastilles d'uranium qu'on place dans le cœur du réacteur. Puis ce sera la mise en marche de la centrale dans un an, si tout va bien. Flamanville, Maud Descamps, Europe 1.
Et la Normandie, justement. Alors, pour un tout autre sujet, puisque c'est la terre de cœur d'un certain Michel Sardou, Je vais t'aimer, c'est le nom d'une nouvelle comédie musicale en ce moment à Paris, avant une tournée en France, une déclaration d'amour au répertoire du chanteur.
Un spectacle qui ne retrace pas la vie du grand Michel, mais celle d'une bande d'amis des années 60, un show à l'américaine que nous présente Naïma Benchemann.
«
Lancez le Mamma Mia à la française dès les premières minutes, embarquement immédiat à bord du France pour une épopée musicale grandiose, comme l'explique Roberto Surléo, le producteur de Je vais t'aimer.
40 ans d'histoire française. On démarre en 62 sur le pont du France lors de son voyage inaugural entre Le Havre et New York. Et à partir de ce moment-là, on rejoint d'autres lieux. Donc on est aux États-Unis, on est en France, on est en Algérie.
Mise en scène époustouflante, costumes éblouissants, 12 comédiens d'exception qui nous font traverser notre histoire à travers 20 chansons de Michel Sardou.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons.
Voilà, on est dans un spectacle où la notion de partage est très très importante parce qu'on a ce répertoire qu'on a tous en tête. On le redécouvre d'ailleurs, hein. Michel Sardou lui-même, quand il est venu à Caen, a redécouvert ses propres chansons. Et on se rend compte à quel point ces chansons étaient fortes et font partie d'un patrimoine qui rassemble les générations.
Un bouquet final parfait avec un medley karaoké de ses plus grands tubes qui emporte un public déjà conquis.
Voilà, Je vais t'aimer, c'est à la Scène Musicale à Paris jusqu'au 19 juin, avant une tournée dans toute la France jusqu'en mars prochain.
C'est noté, merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal, à tout à l'heure.
6h07, les sports avec vous Martin Lange et du basket pour commencer, Monaco prend déjà une option sur le titre de Betclic Elite.
Oui, la Roca Team est allée battre l'Asvel hier à Villeurbanne. Victoire 84-72 dans une Astrobal incandescente dans tous les sens du terme. Les Monégasques ont fait la différence dès le premier quart-temps et n'ont jamais été revus au grand dam du coach villeurbannais TJ Parker.
On commence pas une finale comme ça, le début du match, vraiment, oh, c'était pas notre équipe, c'est 1-0. Eh, bravo à Monaco déjà. Nous, on n'est pas rentré dans le match comme il fallait. Ils ont pris l'avantage et ils en ont profité dans ce premier quart-temps. Eh, c'est réaction vendredi et... il faut qu'on commence, voilà, dès la première minute.
TJ Parker au micro de Maxime Schuch. Prochain match de cette finale, hein, demain donc, toujours à Villeurbanne. On rappelle qu'il faut 3 victoires pour l'emporter définitivement.
On passe au foot et c'est toujours le flou à Bordeaux.
Oui, les Girondins, relégués administrativement en 3e division, mardi tentent de trouver un accord avec leurs créanciers, les fonds américains King Street et Fort Press. Les dirigeants devraient être entendus par la commission d'appel de la FFF début juillet. Mais le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, toujours véhément vis-à-vis des propriétaires du club, estime que les Américains ont tout intérêt à imaginer une sortie de crise.
Je me mets à la place des créanciers, plutôt que de tout perdre. À un moment donné, il vaut peut-être mieux aussi lâcher un peu, hein, parce que là, s'il y a liquidation, ils vont quand même perdre des sommes assez importantes. Donc je n'ose croire qu'ils iront jusqu'à liquidation.
Pierre Hermic au micro de Stéphane Place.
Cyclisme est déjà J-15 avant la grande boucle.
Oui, le Tour, c'est déjà dans 2 semaines un grand départ du Danemark. Les favoris peaufinent leur préparation, comme le double tenant du titre, Tadej Pogacar, déjà impressionnant hier au Tour de Slovénie. Côté français, une interrogation, Julien Alaphilippe sera-t-il présent? Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, le pense. Il a en tout cas imaginé une première semaine à la mesure du champion du monde. Écoutez.
Nous avons tous très envie que Julien Alaphilippe soit au départ du Tour. Les nouvelles sont plutôt favorables et ça nous va bien. Un parcours du Tour de France n'est jamais fait pour un coureur en particulier, mais non seulement j'assume, je revendique le fait de l'avoir fait avec Thierry Gouvenot pour des punchers dans la première semaine.
La première étape du Tour, c'est le vendredi 1er juillet à Copenhague. Et puis en bref, pour finir, à noter que débute la nuit prochaine le 122e US Open de golf, le deuxième tournoi majeur de la saison.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, la guerre en Ukraine est-elle en train par ricochet de mettre en lumière les faiblesses de nos armées? On en parle dans une minute avec le spécialiste défense Renaud Bellet. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11, votre invité ce matin, Julien, économiste, co-directeur de l'Observatoire de la Défense de la Fondation Jean Jaurès.
Bonjour Renaud Bellet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, alors que se tient en ce moment à Villepinte le salon Eurosatory. C'est le rendez-vous consacré à l'armement terrestre. 1800 exposants, des chars, des drones, des fusils d'assaut. Un événement qui, avec la guerre en Ukraine, prend une toute nouvelle dimension. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'y est rendu dès lundi. Nous sommes entrés dans une économie de guerre. Voilà ce qu'a déclaré le chef de l'État. Renaud Bellet, comment peut-on avoir une économie de guerre sans être en guerre?
Alors c'est une bonne question. Beaucoup de personnes se sont posées cette question suite aux propos du président. En fait, on est certainement dans une préparation à la guerre plutôt que dans l'économie de guerre parce qu'on n'est pas vraiment dans un conflit nous-mêmes, même si on soutient les Ukrainiens. Par contre, le président de la République a certainement voulu montrer qu'il fallait se préparer et changer de dimension. D'ailleurs, il a dit dans son discours, hein, on va changer la grammaire finalement des relations internationales. Et donc, la préparation qu'on avait pour un temps de paix, qui était une préparation de posture, doit passer à une préparation de temps de guerre où on doit être prêt à réagir et avoir les moyens pour agir.
Il n'y a pas aussi une posture un petit peu dramatique de la part du président dans un contexte, on va dire, un peu électoral quand même, dans l'entre-deux-tours des législatives ?
Alors, certainement. Mais il montre aussi qu'on a certainement sous-estimé le temps de préparation par rapport à un conflit. Mmh. En fait, l'amiral Giraud, en 2011, disait déjà devant l'Assemblée nationale que la guerre arrive toujours plus vite qu'on ne croit et on se prépare toujours pour une guerre qui viendra beaucoup plus tard. Or, depuis 20 ans, on a préservé l'outil de défense, mais sur un petit volume. Donc on est en fait méchant, mais avec une profondeur assez faible. Et c'est ça que révèle la guerre, en fait. On a fait des interventions dans des pays où on avait besoin de frapper fort, mais peu. Aujourd'hui, si on devait affronter un adversaire comme la Russie, il faut savoir tenir des mois, comme le montre l'Ukraine.
C'est ce qu'on comprend également, et vous avez raison à travers cette déclaration, c'est que nos stocks d'armement et de munitions sont au plus bas, en raison notamment de l'aide qu'on apporte à l'Ukraine.
Alors oui, tout à fait. Et c'est vrai aussi même pour les États-Unis. Certaines études ont montré qu'en livrant des équipements comme les missiles Stinger de défense aérienne, les Américains se sont déjà délestés d'un tiers de leur stock. Or, ils ont des stocks gigantesques comparés à la France. Donc si on prend les canons de César, par exemple, on estime qu'on a donné 15% en fait de nos canons.
Oui, ce qui est considérable, c'est 15% de notre artillerie, canon César, qui coûte très cher. Est-ce qu'on va être en mesure, est-ce que c'est d'ores et déjà budgété, qu'on va remplacer dans les mois qui viennent ces canons qu'on a donnés ou confiés en tout cas à l'armée ukrainienne ?
Alors le tempo de la réaction à la crise en Ukraine est beaucoup plus rapide que le tempo budgétaire. Hein. Donc aujourd'hui, il n'est pas prévu de remplacer aucun des équipements qui a été livré. Il n'y a que les États-Unis qui ont vraiment porté un budget supplémentaire. La question, c'est comment le président et le futur gouvernement vont gérer la situation pour la préparation de la loi de finances 2023. Est-ce qu'on va avoir des crédits supplémentaires exceptionnels ou pas pour pouvoir les remplacer ?
C'est d'autant plus problématique, j'en reviens à ces canons César, que ce conflit en Ukraine, ce conflit à haute intensité, met en évidence, on va dire, certains fondamentaux qu'on a oubliés, c'est-à-dire notamment l'artillerie.
Oui, oui. Ben, c'est vrai qu'on a eu des conflits depuis 30 ans qui donnaient la supériorité aérienne comme étant l'alpha et l'oméga. Et dans les adversaires qu'on pouvait avoir, il n'y avait pas d'artillerie, hein, puisqu'on a surtout combattu des forces rebelles non gouvernementales. Très peu avaient des moyens, sauf en Irak où elles ont pris des moyens étatiques, comme des chars, notamment livrés par les Américains. Mmh. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, pour tenir un théâtre, il faut pouvoir avoir des troupes au sol et de l'artillerie pour pouvoir s'affronter des adversaires qui ont des moyens de ce type. Et notamment, une grande partie des chars russes, même si on a mis en avant des drones rôdeurs ou d'autres systèmes, des missiles Javelin anti-chars, on se rend compte que finalement, c'est l'artillerie qui détruit les chars.
Renaud Bellet, selon le quotidien Le Monde, la direction générale de l'armement envisage de proposer une loi qui permettrait de réquisitionner, selon certaines circonstances, des matériaux ou des entreprises civiles à des fins militaires. On en est vraiment là ?
Alors, en fait, on a un outil industriel de défense qui a été réduit après la guerre froide, ce qui est vrai aussi dans tous les pays, hein, pratiquement, peut-être à l'exception de la Chine et de la Russie. Même aux États-Unis, aujourd'hui, on sait que si on n'augmentait pas la capacité de production, il faudrait à peu près en moyenne 8 ans pour qu'on régénère en fait les forces qui auraient été perdues. Et donc, en France et en Europe, c'est encore plus poussé. On a vraiment un outil qui est tout petit. Et donc, c'est vrai que cette proposition de loi, c'est un levier, même si ce n'est pas forcément opérationnel à court terme. Mmh. Et c'est plutôt aujourd'hui, on pense plutôt à réquisitionner des stocks de matières premières, par exemple. Parce qu'il faut savoir que des équipements de défense sont des équipements complexes qui comprennent des milliers, voire des dizaines de milliers de pièces. Et donc, il faut pouvoir disposer de l'ensemble des pièces pour fabriquer un équipement. C'est pour ça que lorsqu'on fabrique un avion comme le Rafale, il faut entre 2 et 3 ans pour qu'entre la fabrication des pièces élémentaires jusqu'à la fabrication finale de l'avion. Mmh. Et donc ici, vous avez des dizaines de milliers de pièces dont chacune est essentielle.
Alors je le disais en introduction, le salon Eurosatory, salon de l'armement, est en cours du côté de Villepinte. C'est une aubaine, cette période pour les industriels de l'armement. En tout cas, on l'imagine, puisque d'un côté, il faut fournir des armes à l'Ukraine, et de l'autre, ça pousse les pays occidentaux à réévaluer le dimensionnement de nos armées.
Tout à fait. En fait, on se rend compte qu'on a gardé des compétences, notamment en France, on sait tout faire, entre guillemets, donc c'est vraiment essentiel pour être efficace, mais en fait, on n'a pas pris la mesure du rythme qu'il fallait avoir pour pouvoir faire face à un adversaire rapidement. Et je pense qu'on a peut-être allé trop bas, en fait, en termes de taille de maintien de compétences. Et donc ici, il y a un problème à la fois de recrutement et de formation des militaires. Et aujourd'hui, un militaire, c'est un technicien de haut vol. Et puis aussi, bien sûr, comme vous l'avez évoqué, de fabrication de matériel qui prend du temps et qui nécessite des moyens de production.
Qui va réellement profiter de ces crédits en hausse, Renaud Bellet ? Je dis crédit en hausse parce que c'était d'ores et déjà prévu avant la guerre en Ukraine. Notre budget de la défense doit arriver, je crois, à 50 milliards d'euros annuels d'ici 2025. Il y a aussi 100 milliards qui viennent d'être mis sur la table par l'Allemagne pour remettre à niveau son armée, et Dieu sait qu'elle en a besoin. Qui va profiter de toute cette manne financière ? Est-ce que c'est les États-Unis ?
Alors c'est une vraie question. Dans le cas de la France, en fait, on a vraiment programmé depuis 2012 un effort de remontée en puissance, qu'on s'est rendu compte qu'on avait atteint un certain point bas, qu'il fallait vraiment le compenser. Donc on était déjà dans une dynamique positive en France. Et en termes de recrutement de personnel, la planification est bien prévue et une montée en puissance déjà avérée. Du point de vue industriel, on a aussi une planification long terme. Donc ici, ce sont les industriels français essentiellement. Du côté de l'Allemagne, en fait, ils étaient beaucoup plus bas que nous, toute proportion gardée. Et donc, il y a une sorte d'accélération qui fait que, bien sûr, l'industrie allemande n'a pas forcément toutes les capacités pour fournir. Et ils vont se tourner vers les Américains, comme ils ont pu le faire déjà pour une partie de certains équipements.
Mais, notamment leurs avions de chasse, les fameux F-35.
Alors, dans le cas des F-35, c'est aussi compliqué parce qu'en fait, ils doivent emporter des bombes atomiques américaines.
Ils auraient pu choisir du Rafale.
Alors, en fait, c'est la difficulté, c'est que ces bombes, une bombe ou un missile, ne se met pas juste sous une aile d'avion. Il faut pouvoir intégrer qu'un système de commandement d'éjection aussi de l'aile et de données aussi pour piloter la bombe ou le missile. Et donc, en fait, ce système n'existe que sur le F-35 aujourd'hui. Et les Américains n'ont pas autorisé les Européens sur l'Eurofighter ou sur le Rafale ce type d'intégration. Et même sur le F-18 de Boeing, ils n'ont pas donné l'autorisation de le faire. Donc les Allemands n'avaient pas le choix d'acheter autre chose que du F-35 pour cette mission. Par contre, les Européens peut-être se bercent d'illusions sur la capacité des Américains à fournir rapidement, parce que par définition, ils vont se fournir d'abord eux, et ils ont des besoins. Hein. Dans le cas des missiles Stinger, ils ont perdu un tiers de leur stock.
En seulement trois mois de conflit, ce qui est absolument sidérant. Merci beaucoup Renaud Bellet, co-directeur de l'Observatoire de la Défense de la Fondation Jean Jaurès. Merci de nous avoir éclairés ce matin sur toutes ces questions complexes. Excellente journée à vous. On conclut ce petit matin comme chaque matin avec votre partition Omblin et à nouveau une bande originale de film. Si vous prenez certaines des plus grosses pointures américaines du blues et de la soul, un empilement de voitures de police, des costumes, des lunettes noires, vous obtenez The Blues Brothers.
Voilà, les aventures rocambolesques du duo infernal formé de Jake et Elwood Blues, alias Dan Aykroyd et John Belushi, tandem indissociable qui, après avoir crevé l'écran, est parti à la conquête d'Hollywood en 1980.
Deux ans plus tôt, Dan Aykroyd et John Belushi sont devenus les Blues Brothers dans la mythique émission télévisée Saturday Night Live sur la chaîne NBC.
Exactement, avec leurs sketchs, ils chauffent le public pendant les pauses. Leurs courtes prestations font un carton et sont intégrées au show en direct. En pleine période disco, le blues contamine les coulisses et les autres scènes américaines. Les Blues Brothers partent sur les routes avec les musiciens du Saturday Night Live, mais aussi avec les anciens de Booker T and the MGs, le groupe qui a travaillé notamment avec Otis Redding.
Les deux performeurs charismatiques à la popularité croissante rêvent de cinéma.
Et oui, l'idée d'un scénario germe dans l'esprit de Dan Aykroyd et l'action se passera au cœur de la patrie du blues, la cité venteuse de Chicago. Come on.
Le scénario de The Blues Brothers est plutôt simple.
Oui, Jake et Elwood Blues sont investis d'une mission divine pour sauver l'orphelinat où ils ont grandi. Ils doivent trouver $5,000 et ils vont tout faire pour reformer leur orchestre légendaire. Le film, réalisé par John Landis, est ponctué de concerts improbables, de rencontres fortuites et d'invités plus prestigieux les uns que les autres, à l'image d'Aretha Franklin.
Aretha Franklin incarne Madame Murphy, oui, la tenancière du Soul Food Café.
Et pour la petite histoire, lors du tournage, la reine de la soul a beaucoup de mal à se caler sur le playback de la chanson Think. De nombreuses prises sont nécessaires pour filmer la scène.
On croise également James Brown, ou plutôt le révérend James déchaîné.
Mais aussi Cab Calloway dans un smoking blanc avec une queue de pie. Il reprend son succès des années 30, Minnie the Moocher. Il y a Chaka Khan, Steven Spielberg aussi. Il est le receveur des impôts avec ses grosses lunettes qui affichent sur la vitre de son bureau. Retour dans 5 minutes pendant qu'il mange son sandwich. Et puis, moment absolument incontournable, Ray Charles dans le rôle du vendeur d'instruments de musique qui fait chauffer un vieux piano électrique. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Shake a Tail Feather, comprenez, secoue-toi les plumes du derrière, extrait du film The Blues Brothers qui fête ses 42 ans aujourd'hui. Il a été projeté en avant-première à Chicago le 16 juin 1980. Aux États-Unis, il est sorti la même semaine que Star Wars, l'Empire contre-attaque.
Ah oui,
ouais, dur, hein. Du coup, ils ont fait moins de chiffres.
Oui,
moins
mais ils étaient en mission pour le Seigneur.
Exactement, pour sauver leur orphelinat.
Voilà.
Exactement, Dimitri Pavlenko.
À tout à l'heure, à tout de suite.
Europe Matin. 6h27, excellente matinée avec Europe 1.
On vous donne rendez-vous demain à partir de 5h pétantes. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien.
Bonjour
Ambline. Nous aussi en mission pour le Seigneur, si je puis dire.